l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Il fut un temps où envahir un autre pays, s'y installer, installer ses symboles et sa population, exploiter ses richesses, suscitait peu de protestations, à part peut-être dans les pays envahis. Il fut un temps où s'approprier le territoire d'autres gens était considéré comme un événement presque ordinaire de la vie des États. Des États-nations, disait-on. Je vous parle bien sûr de la colonisation que la France a pratiquée plus qu'à son tour. Alors forcément, ça ne s'est pas toujours bien terminé cette histoire. En Algérie, ça s'est même terminé par une guerre. Même s'il y a eu, il est vrai, des Algériens qui se sont battus pour rester français. On les a appelés les harkis. Il y a eu aussi des formations supplétives qui ont aidé l'armée française. Le 25 septembre, c'est une journée nationale d'hommage à ces personnes. Et savez-vous qu'en Bretagne, nous avons une fédération des harkis rapatriés et combattants d'Afrique du Nord. Deux de ses représentants sont avec nous aujourd'hui, l'actuel délégué pour le Finistère, Karim Attaghema, et Christian Durieux, l'ancien délégué, qui a aussi été capitaine pendant la guerre d'Algérie. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai dit des bêtises, non? C'est ça? Vous étiez capitaine?
Sous-lieutenant.
Sous-lieutenant. Très bien, je rectifie.
Après, mais c'est un capitaine.
Alors, la Fédération des harkis rapatriés et combattants d'Afrique du Nord de Bretagne, déjà, que fait-elle? De quoi s'agit-il exactement?
Alors,
Karim.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de maintenir un travail de mémoire, dans le sens où nous assistons aux différentes commémorations qui peuvent avoir lieu. Le 25 septembre, c'est la journée des harkis. On est là pour le 11 novembre, le 5 décembre. On est aussi, bien sûr, pour la guerre d'Indochine et aussi la guerre de 1870 contre les Prussiens, parce qu'il faut savoir qu'énormément d'Algériens sont retrouvés au combat, puisqu'ils étaient français, donc enrôlés par l'armée.
Oui, parce que je redis bien le nom, c'est la Fédération des harkis rapatriés et combattants d'Afrique du Nord. Donc il s'agit d'Algérie, certes, mais pas seulement. C'est quoi les autres pays
pas
concernés?
Seulement, c'est la Tunisie et le Maroc, évidemment.
Donc qui étaient des colonies françaises, enfin en tout cas.
Qui étaient des colonies françaises, donc c'était considéré comme citoyens français pour la guerre. Mais sinon, ils étaient citoyens de deuxième catégorie. C'est ça qui les a amenés à combattre pour leur libération, car ils n'avaient pas la reconnaissance qu'un citoyen européen pouvait avoir dans leur propre pays.
Votre fédération compte combien d'adhérents et qui sont-ils ou elles d'ailleurs?
Alors nous en avons actuellement sur la Bretagne, nous sommes à peu près une petite trentaine. Il y a aussi bien des anciens soldats tel Christian Durieux. Ils pourront en dire un peu plus que moi, parce que moi je suis arrivé dans la fédération que depuis le mois de juin. Il y a aussi des anciens harkis, qui sont représentants, surtout des fils de harkis, puisque les parents sont assez âgés au jour d'aujourd'hui.
Il y a encore des gens évidemment qui ont vécu cette guerre et qui sont en vie, hein, bien sûr. Alors les harkis en Bretagne, c'est vrai qu'on se dit, tiens, il ne doit pas y avoir beaucoup de harkis. On est loin de la Méditerranée en fait, Christian Durieux, qu'est-ce que...
Oui, c'est exact. Mais il y a deux types de harkis. Il y a des harkis qui, comme vous pouvez le compléter, monsieur, ont été reçus à Saint-Avé.
Exact.
Saint-Avé, c'est quoi?
Expliquez-nous.
Alors Saint-Avé, c'est une ville qui se trouve à côté de Vannes. Et ils ont récupéré, en 64, ils ont ouvert un camp. Et ils ont récupéré 25 familles qui venaient aussi bien des grands camps de Rivelsalt ou alors directement d'Algérie, ceux qui ont pu fuir le pays.
Donc c'était des harkis, c'est-à-dire des Algériens,
oui,
qui ont combattu aux côtés de la France.
Tout à fait.
Et
avec leur famille, il y a eu 25 familles qui sont arrivées. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont à peu près 300 entre Lorient et Vannes dispersés.
Donc c'était le seul endroit où on accueillait ces gens
en
Bretagne,
c'était le seul endroit en Bretagne où ils ont été accueillis. Il faut savoir qu'il y a des régions en France où ils n'ont été pas du tout accueillis.
Ouais, c'est ça.
Quoi.
Et pourquoi à Saint-Avé, enfin, qui décide ça? C'était l'État?
Je pense que ça vient de la mairie surtout.
Vous avez les responsables politiques de l'époque qui ont été... et il y avait également l'armée qui existe à Vannes.
Ah oui, c'est ça.
et qui donc les ont aussi accompagnés.
Mmh. Et c'est
Arc... savoir,
oui, allez-y.
Également, si on prend la région de Brest, compte tenu de la marine, l'importance de la marine, les fonctionnaires, les employés civils et militaires, les forces supplétives, si vous voulez.
Ah oui, c'est ça, les forces supplétives, c'était des gens qui n'étaient pas soldats, c'est ça?
Pas forcément. Et qui ont travaillé donc avec, avec la marine, ont été plus facilement rapatriés.
Mmh. Et pourquoi d'ailleurs, plus facilement?
Parce que d'abord, c'était des Français. Mmh. C'était des employés administratifs.
Oui, ils avaient...
Pour
ouais.
cela. Et pourquoi ne nous les aurions pas récupérés facilement? Il faut savoir que la récupération, sinon, des harkis qui n'ont pas voulu s'engager dans l'armée française, mmh. quand il y a eu l'indépendance, a été très difficile. Et, à ma foi, grâce à des unités, à des officiers français, grâce à des équipes médico-sociales comme les MSI, ils sont parvenus à rejoindre, dans des conditions relativement épouvantables, la métropole.
Alors, c'est Harki. Donc, pourquoi on les appelle Harki, d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire?
Harki, c'est pour Arca. Arca, ce sont des unités en mouvement. Mm.
C'est de l'Algérie, enfin de l'arabe d'Algérie,
oui,
je suppose.
Tout à fait, à la base.
C'était formé, en réalité, dans l'Édouard, c'était formé par des anciens militaires qui avaient fait la guerre de 39-40, et ben, des jeunes, évidemment, aussi, et c'était destiné au début, de protéger l'Édouard contre les brigands.
D'accord. Et contre les brigands, donc ils étaient déjà formés avant qu'il y ait la guerre d'indépendance, c'est ça?
Pas du tout. Quoi. Les anciens militaires, évidemment, ils savaient servir d'un fusil, mais il a fallu justement l'expérience des anciens pour que les plus jeunes, eux aussi, deviennent des défenseurs avant de devenir des combattants. Et c'est ce qui a permis après, compte tenu de leur unité dans leur devoir, de pouvoir facilement avoir des gens, hein, des groupes faciles sur le terrain à manœuvrer, pour la raison qu'ils connaissaient parfaitement le terrain, et puis à toute épreuve, quoi.
Ce que vous appelez, très fidèle. Ce que vous appelez Douar, c'est quoi?
Douar, c'est un village.
Oui, ouais. C'est intéressant parce que ça ressemble un peu à du breton. Ah. Et le breton, en breton, c'est le Douar, si je ne m'abuse. C'est la terre, non? Ou l'eau? Je ne sais plus. Honte sur moi. Et donc, ces harkis se sont créés en tant qu'armée, entre guillemets, de leur propre chef, ou est-ce que c'est l'État français qui a dit...
c'est l'État français qui les a encouragés, dans un premier temps, à se défendre, qui leur a donné, d'ailleurs, dans un premier temps, des armes... C'était des armes anciennes, mais des armes pour pouvoir justement se défendre.
Et
au début, ils n'ont pas vu arriver le danger.
Ah ouais, c'est ça. Leur motivation, c'était juste se défendre, en fait, c'est ça,
ah oui.
Au départ. Et combien ils étaient, finalement, à devenir partisans actifs de l'Algérie française?
Ils étaient tous partisans, pas de l'Algérie française, parce que bon... De l'Algérie tout court, de la France tout court. C'était un département français.
Donc ils voulaient rester, c'était quand même leur motivation, ils voulaient rester un département.
Nous avons été appelés à cette époque-là en maintien de l'ordre et pour défendre, pour protéger un État, un département, des départements français. Personnellement, ça va peut-être faire bondir. On m'a dit, vous allez là-bas. J'ai répondu, moi, tout jeune, pourquoi faire? Se battre contre les Russes et les communistes.
Ah oui, c'est ce qu'on vous a dit. Se battre contre les Russes.
Et faire quoi? Du maintien de l'ordre. Bien, chef. Et en fait, les choses sur place, on a constaté que les choses sur place étaient un peu différentes, sans en connaître vraiment la portée.
Et oui, c'est toujours comme ça au début.
La plupart des appelés... Aller en Algérie, c'était, oui, aller pour, parce que le gouvernement français le demandait, faire du maintien de l'ordre pour rétablir l'ordre. Et on a, il n'a été question de, vraiment de guerre que quand, sur le terrain, on s'est trouvé engagé d'une autre manière.
Et pourquoi est-ce qu'on disait les Russes et les communistes? Parce qu'en fait, les indépendantistes étaient assimilés
les Russes,
à ça.
Les Russes, un peu moins, c'est un peu moi qui le dis, les communistes, c'était courant.
Oui, on disait que donc, les indépendantistes étaient tous communistes, quoi.
Ben non, ouais. On ne parlait pas d'indépendantistes.
Oui, bien sûr, non, mais moi, c'est moi qui traduis, là, j'avoue, bien sûr.
Hein, on était très, comment dirais-je, très naïfs.
D'accord.
Maintenant, nos autorités, évidemment, avaient, avaient une connaissance de, des événements que... on prend un gamin, on prend un, oui, je dis bien, un gamin qui a 20 ans, on dit, allez, top, tu vas là-bas. Mince, oui. Alors moi, hier, je terminais mes études, où j'étais, j'étais boucher charcutier, où je travaillais la terre.
Oui. D'accord, ben, on va revenir sur votre expérience, bien sûr, puisque vous y étiez, Christian Durieux. Karim Atagema, donc, puisque vous êtes le nouveau délégué de cette fédération, enfin délégué finistère,
oui, tout à fait.
De cette fédération des harkis rapatriés et combattants d'Afrique du Nord de Bretagne, comment ça se fait alors que vous n'avez bien sûr pas combattu, puisque vous êtes trop jeune? Comment
oui,
c'est
exact.
Venu,
oui. Bah, c'est venu du fait qu'il a fallu que, vu que j'ai été interpellé dans ma jeunesse à partir de 13-14 ans sur le sujet de la guerre d'Algérie.
Vous êtes né en Algérie?
Je suis né en France. J'ai fait toutes mes études ici en France, en banlieue parisienne. Donc dès qu'on a commencé à m'interpeller, je n'ai su quoi répondre, vu que mes parents ne m'en avaient jamais vraiment parlé. C'est là où j'ai appris par ma mère qu'elle avait perdu une de ses grandes sœurs. Là-bas, elle a été. C'est un avion qui lui a tiré dessus. Pour vous dire, l'aviateur s'est présenté 48 heures après pour présenter ses excuses et ses condoléances. Ma mère a été rapatriée en 60 par son père, l'a ramenée en 60. Il travaillait en France. C'était pas du tout. Je viens pas du tout d'un milieu harki. Mon père était en France ici et donc...
Pour des raisons économiques, en fait,
oui,
surtout.
Mon père est arrivé en 46 en France. Quoi. Beaucoup d'Algériens travaillaient en France déjà.
C'était des Français,
après guerre, quoi. Même mes grands-parents ont travaillé en... Avant la Deuxième Guerre mondiale, était ici en France, quoi, mes deux grands-pères. Quoi. Donc c'était pour des raisons économiques et autres. Quoi. Et donc là, j'ai commencé à demander à mes parents de m'en parler un peu. Mon père il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais ici. Oui, il y avait le FLN qui organisait des réunions. Moi, j'étais dans le bar, je servais. Il fallait que je fasse attention quand la police arrivait, au cas où. Quoi. C'était tout. Et puis... on devait donner une somme.
Ah
voilà,
oui.
C'est tout ce que pouvait m'a raconté mon père. Ma mère m'a expliqué.
Donc
que
tous les Algériens de France, non, pas tous quand même.
A priori, tous ceux qui étaient en France étaient tenus de donner alors entre 15 et 20% de leur salaire par
mois.
C'est
énorme.
Ils n'avaient pas le droit de fumer, interdiction d'écouter de la musique, interdiction de jouer au domino ou aux cartes.
Donc les FLN étaient vraiment présents en France.
Étaient partout et tout le monde était surveillé. C'est pour ça que moi, j'avais été toujours sur... Pardon Christian, vas-y.
Il y avait le FLN et il y avait le FLN, il y avait également la LN.
C'est quoi?
C'était les forces donc adversaires.
Ah oui.
Qui étaient en France.
D'accord.
J'ai connu personnellement aussi une cousine qui avait épousé un Algérien, un monsieur charmant, j'étais tout gamin, et qui était arrivé dans les années 40-46 aussi, et qui était lui maçon dans le bâtiment, comme la plupart, et qui m'avait raconté une fois, c'est la seule fois qu'il m'a dit qu'il était obligé de payer aussi aux forces... révolutionnaire.
Une dîme.
Il ne pouvait pas transiger.
Et le FLN, en fait, il datait de quand? Enfin, quand est-ce qu'il a commencé à s'organiser au point d'être capable de prélever une dîme en France, en fait?
Je ne peux pas vous donner de date, mais bon, si on commence. La guerre d'Algérie a commencé en 1954.
Oui, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par rappeler ça.
C'était déjà latent depuis. 45, et même avant.
Oui, c'est ça, c'est peut-être la Seconde Guerre mondiale qui a cristallisé les choses, sans doute. Ça ne serait pas faux de le dire, en tout cas. Et donc les Algériens qui vivaient en France et qui n'étaient pas spécialement politisés, comment, enfin, comme vos parents, Karim, comment est-ce qu'ils voyaient les choses? Est-ce qu'ils étaient plutôt pour une indépendance ou pas?
A priori, ils étaient pour une indépendance, mais voilà, c'est ce que m'ont toujours dit mes parents. Mais une indépendance, est-ce qu'elle était contrainte ou non? Je ne saurais vous le dire. Mais il y avait quand même une obligation. Ils avaient énormément d'obligations sur cette période. Par exemple, vous voyez toutes les photos entre les années 58 et 62. Tous les Algériens que vous voyez, ils sont quasiment tous en costume. On leur demandait de sortir de l'entreprise, d'être propres sur eux, rasés et habillés proprement. Ils prenaient des amendes, sinon.
Qui leur demandait ?
Le FLN. Le FLN, parce que c'était politique, pour montrer une image de l'Algérien par rapport à l'ONU et autres. Comment
oui, la dignité.
La dignité, qui montrait qu'ils étaient aussi des gens voilà, qui pouvaient faire partie de la grande nation mondiale.
D'accord, je comprends. C'était pour sortir du cliché. Tout ça, ça court pieds nus, c'est la fameuse phrase.
C'est ça, voilà.
C'est ça,
Donc c'est un peu... Ça correspond, c'est-à-dire on leur avait mis une étiquette, mais il est certain que... Vous aviez des instituteurs, vous aviez des...
Bah, ils étaient très influencés par la culture occidentale, finalement, quoi. C'est ça,
normal.
Forcément. Bah, oui, bien sûr. Comment leur en vouloir, bien sûr. Et vous, Christian Durieux, donc vous aviez 20 ans, c'est ça, quand on vous dit vous allez, dans le département français d'Algérie, combattre, faire du maintien de l'ordre.
Oui, j'avais terminé mes études, j'étais sur Cythère, j'étais marié.
Vous étiez breton, déjà? Enfin, vous viviez en Bretagne? Non, pas du tout.
Non, moi, je suis né... en région parisienne. Et
quel était votre regard? Vous connaissiez l'Algérie? Vous aviez une idée de cette question?
Pas du tout.
Ah ouais. Et donc, quand vous arrivez sur place...
J'en étais encore en politique, avec le premier politique que j'ai trouvé bien, c'était ma défense, parce qu'il donnait du lait dans les écoles. Ça n'avait pas d'incidence, parce que dans ma famille, on parlait rarement de politique.
C'est ça, oui. Et quand vous arrivez sur place, alors quel a été votre plus grand choc? Enfin, qu'est-ce que vous avez découvert vraiment?
J'ai découvert la misère des populations, les ordres des officiers, sous-officiers et les crapahutages, et puis la vie courante.
Vous étiez à quel endroit exactement en Algérie?
J'étais dans la vallée de la Soubam.
Dites-nous. En Kabylie. En Kabylie, d'accord. Kabylie, d'où vient votre famille, Karim?
Oui, tout à fait.
C'est peut-être pas la même vallée, mais...
Oui, non, pas du tout.
J'étais exactement dans le 28e bataillon de chasseurs alpins. La base était à Takritz.
D'accord. Et donc, c'était un théâtre d'opération, entre guillemets, très violent ou, ça s'est passé?
Oui. Il faut savoir que militairement, l'Algérie était divisée entre plusieurs zones. Et à chaque zone, vous aviez des compagnies, des bataillons, des généraux, des unités diverses et des opérations brutales. À savoir qu'au fur et à mesure des années, l'adversaire est devenu mieux armé, mieux entraîné et qu'il a fallu... utiliser des moyens exceptionnels et organiser des opérations regroupées, telles que les opérations jumelles, pierres précieuses, etc., pour pouvoir les anéantir. Après avoir construit, entre le Maroc et donc le territoire français, la Tunisie et le territoire français, des barrages pour les empêcher de pouvoir pénétrer sur ces territoires-là en masse.
Mmh.
Ça a été un travail considérable qui a demandé un renfort d'appelé. Il faut savoir qu'un appelé, c'est un garçon qui est comme nos anciens de la guerre de 14-18 ou de la guerre de 40, à qui on dit monsieur, vous êtes astreint défendre votre patrie, d'aller la défendre. Pour combien de temps? On verra.
Et vous, votre quotidien, c'était plutôt alors de la maçonnerie pour construire des barrages ou c'était quand même tirer sur des gens
Non, moi j'étais dans la vallée de la Souma. Alors, dans la vallée de la Soumam, ce qu'on a fait, nous, quand je suis arrivé, il y a eu un regroupement de population dans la vallée. Nous avons construit quelques maisons pour pouvoir, suffisamment, pour pouvoir les recevoir. Il y avait eu aussi un horrible orage qui avait détruit les ponts qui permettaient sur la Soumam d'aller d'un bord à l'autre. Et on a donc, c'était à proximité de notre poste, on a donc surveillé tout ça. Et on a également eu, à un moment donné, le pipeline Bougimessaoud aussi, qui est passé dans la région. On a été là encore aussi
Ah, le pipeline de pétrole. Ah oui, d'accord.
Ouais.
Oui, okay. Donc vous deviez surveiller surtout, mais est-ce que vous aviez...
Mais
vous avez dû attaquer
parfois ? C'était pas l'essentiel.
Ah ouais, non.
L'essentiel, c'était en quelque sorte, compte tenu que notre adversaire était bien organisé, c'était d'essayer de le détruire.
Oui. Donc quand même, vous meniez des actions de guerre, quoi,
ah ben,
concrètes.
On menait des opérations en général importantes.
Oui. Et c'était plutôt au fusil, à l'explosif, hein, c'est pour avoir une idée, mais...
Ah ben non, il faut savoir qu'une compagnie est armée d'une part d'armes individuelles, bien sûr, et collectives, mais qui a également en support, vous avez l'artillerie.
Mmh, c'était ça,
en
quoi.
Support, vous avez également l'aviation.
Mmh. Vous n'étiez pas dans l'aviation, vous étiez à terre. Vous...
Ah oui, moi j'étais à terre.
Mmh. Donc c'était dangereux quand même, j'imagine que vous avez eu parfois peur aussi.
C'était relativement très dangereux. C'est pour ça qu'il y avait une certaine solidarité entre tous les soldats qui étaient là, quel que soit leur grade, parce qu'en opération, ça rigolait pas, et on savait que s'il y en avait un qui fautait, disons, qui n'était pas à sa place et qui ne faisait pas son... Et ben ça, les autres risquaient d'être anéantis aussi.
Mmh. Et vous, Karim, votre famille qui est restée là-bas, donc il y a une famille plus lointaine, j'imagine, plutôt des cousins et tout ça. Enfin, donc, comment ils ont vécu la guerre, de ce que vous en savez ?
Ils l'ont vécu en la subissant, évidemment, puisqu'ils étaient, c'était comme toujours dans une guerre, c'est les populations civiles les premières marquées. Hein.
Ils n'étaient pas engagés dans la lutte armée, oui.
Aucunement engagés dans la lutte armée, vu que tous les hommes n'étaient pas au village. Tous les hommes valides, entre guillemets, étaient en dehors du village, travaillaient soit sur Alger ou étaient en France. Il faut savoir, dans le village de mes parents, ils avaient réuni trois autres villages. En fait, la manière de faire, c'était on fait des zones désertiques, comme personne n'a le droit d'intervenir, d'être présent. Si vous êtes présent en tant qu'Algérien ou autre, on tirait à vue. C'était une manière d'essayer de résoudre le problème du FLN.
Ouais, donc on confinait les populations pour éviter la guérilla, en
tout
fait.
Tout à fait. Et les populations étaient enfermées. La nuit, ils étaient enfermés avec une caserne militaire autour. Mais ça n'empêchait pas les gens du FLN d'intervenir la nuit, de réclamer des nourritures ou de les empêcher, de leur demander de ne plus envoyer les enfants à l'école le matin.
Ouais,
ce genre de situation où les populations se retrouvaient prises entre deux feux. Quoi.
Donc avec des accidents comme votre...
Voilà, c'est ça, il y a eu des accidents de ce type-là, où l'armée française descendait au village, demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'intervenez pas, vous n'envoyez pas les enfants à l'école. Il faut savoir en plus qu'ils avaient un repas qui leur était offert dans la journée, puisqu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient des problèmes aussi de malnutrition. C'est comme ça qu'il y a eu les forces... Et ils ont créé des forces aussi, les IMSI, entre autres, c'était des femmes qui avaient été formées pour rentrer dans les maisons, des femmes d'origine algérienne qui avaient été formées pour pouvoir rentrer dans les maisons et apporter les soins nécessaires, car il y avait aussi une population qui mourait très très jeune.
La misère dont on a parlé.
Il faut savoir que les IMSI étaient en principe protégées par l'armée française.
En principe, oui.
Elles n'allaient pas comme ça toutes seules. Et... Je pense que nous en reparlerons tout à l'heure.
On ne va pas pouvoir en reparler tout à l'heure parce que l'émission est bientôt terminée.
Bon,
donc
alors
je voulais juste
tout de suite.
Allez-y, ouais.
Je voudrais bien qu'on insiste sur ce côté de la guerre là, où c'était des filles, c'était des jeunes femmes. Certaines venaient de métropole.
Donc au service de la France.
De métropole.
Ouais.
D'autres ont été recrutés sur place et ont fait preuve d'un courage exceptionnel pour pouvoir justement porter assistance, faire du médical gratuit. Hein,
des infirmières, en fait, quoi.
Ce n'étaient pas des infirmières.
Non.
J'ai ici un document que je vais vous laisser.
Oui, on le mettra
et,
peut-être.
Vous pourrez le consulter. Je pense que nous en reparlerons.
Ben oui, vous reviendrez, en fait.
Et elles disent une chose quelque part. Hein, le 13 mai 58, ça a été l'enthousiasme. Le 23 avril 61, ça a été l'espérance et l'inquiétude. Le 19 mars 62, la honte et le désespoir. Il faut savoir qu'on a... Les ordres ont été ainsi déterminés après, pour le, après le 1er juillet 62... Les MC, c'était donc...
Ou ces jeunes femmes, oui.
Eh bien, les MC, à partir du 1er juillet 62, de la zone sud-est constantinoise, seront mises à la disposition du gouvernement algérien.
Oui. Mmh.
Donc, le gouvernement algérien, c'était l'ennemi.
Ben oui, c'est ça.
Et quand ces jeunes filles, il a fallu trouver une solution, et Madame Ginette Thévenin-Copin, chevalier de la Légion d'honneur, ancienne responsable des MC, elle a fait la chose suivante, elle a mis toutes ses filles en vacances, et elle leur a dit, vous venez en vacances en France.
Oui, oui.
Alors toutes celles qui ont voulu venir, eh bien ma foi, elles ne sont jamais reparties là-bas. Par contre, celles qui ont voulu rester auprès de leur famille, eh bien, elles sont mortes et dans des conditions effroyables.
On va devoir terminer l'émission ici, malheureusement, sur cette image assez dure. Mais vous reviendrez nous parler de cette guerre, parce qu'on se rend compte qu'en Bretagne, on en parle très très peu et qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci.